À l'écoute de RFI, il est 17h en temps universel, 19h ici à Paris.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Lundi 31 mars, bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver. Notre session soirée de l'info sur RFI fait peau neuve. On vous dit tout dans un instant, on reste au service de l'actualité. Et ce soir, le grand titre, c'est la condamnation de Marine Le Pen. Quel avenir pour la chef de file des députés du Rassemblement National, condamnée ce lundi à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN? C'est la grande question évidemment ce soir. À suivre dans 30 minutes le débat du jour qui tentera de répondre à cette question. Est-ce que le RN est plombé? Quelle sera la stratégie du parti et celle de Marine Le Pen après cette condamnation? Réponse à suivre. 18h temps universel, le grand journal du soir, et désormais c'est Christophe Paget qui m'accompagnera chaque soir. 18h15 temps universel, notre édition spéciale ce soir consacrée au séisme politique en France. Et alors que Marine Le Pen au même moment s'exprimera sur TF1, nous commenterons ses déclarations avec nos correspondants, on les analysera également, on confrontera toutes ces déclarations avec nos invités politiques. 19h10 temps universel, désormais ce sera l'horaire de votre décryptage. 19h10 TU ce soir, Clotilde Dumais va évoquer les contre-pouvoirs qui se forment face à Donald Trump avec cette question: est-ce que la démocratie américaine résistera au président des États-Unis? Et enfin le grand reportage, 19h30 TU au Gabon, le général Oligui Nguema entre rupture et continuité de l'ère Bongo. Et voilà pour le programme et pour l'heure. Il est 17h02, temps universel, et c'est le journal d'Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Et à la une ce soir donc, ce scénario du pire en France pour le Rassemblement National.
Marine Le Pen a été condamnée ce matin, jugée coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire dite des assistants d'eurodéputés. Alors même si les avocats de la chef de file de l'extrême droite en France annoncent faire appel, et bien pour l'heure, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Elle a aussi été condamnée à 2 ans de prison ferme, aménageable et 100 000 euros d'amende. Nombreuses sont les réactions. Victorien Villon, vous vous êtes rendu dans la journée dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, une petite ville considérée comme le fief de Marine Le Pen. Victorien, les habitants oscillent entre indifférence et consternation.
En face de l'église, en plein centre-ville, le Café de la Paix. Les habitués prennent un espresso, lisent le journal. Pas de télé allumée, mais l'actualité du jour sur Marine Le Pen, Pierre l'a surveillée depuis le réveil.
C'est l'acharnement. Il y en a des autres qui ont des casseroles et on n'en parle pas. Ils veulent écarter le RN. Ils savent pas comment faire. C'est pas grave. On mettra M. Bardella et puis Marine sera toujours un peu derrière pour le conseiller.
Fort sentiment d'injustice également pour Patricia, retraitée.
Ce que je pense, c'est que on avait très peur qu'elle soit présidente aux prochaines élections. Donc on a tout fait pour l'émincer. Il y a des personnes qui ont fait peut-être des choses beaucoup plus graves qu'elles et qui n'ont pas été condamnées.
Vous avez l'impression qu'on vous enlève votre candidate?
Oui, tout à fait.
Alors Marine Le Pen avait récolté 64% des voix à Hénin-Beaumont aux dernières législatives, mais bien sûr certains habitants ne la soutiennent pas. Leïla ne voit pas en quoi il y a lieu de polémiquer.
La justice a suivi son cours. En tant que responsable politique, en effet, elle se doit d'être exemplaire. Elle ne l'a pas été, force est de constater, elle est punie et c'est parfaitement logique.
Hénin-Beaumont, Victorien Villaume, RFI.
Entre-temps, le président du RN, Jordan Bardella, appelle à une mobilisation populaire et pacifique. Quant au Premier ministre, François Bayrou a été, selon son entourage, troublé par l'énoncé du jugement. Notons que le patron du PS, Olivier Faure, lui, regrette que la séparation des pouvoirs ne soit plus à l'ordre du jour du gouvernement français. Une condamnation de Marine Le Pen qui fait réagir jusqu'aux États-Unis. Elon Musk dénonce, lui, un abus du système judiciaire français et prévient qu'il y aura un retour de bâton. L'actualité à présent en ce qui concerne la Birmanie. 3 jours après ce terrible séisme, le bilan continue de s'alourdir à plus de 2056 morts et près de 4000 blessés. L'espoir de retrouver des survivants dans les décombres se réduit d'heure en heure. RFI a pu joindre une habitante de Sagaing en Birmanie, Sagaing ou l'épicentre du séisme. Elle nous raconte les difficultés pour répondre à la catastrophe.
Les lignes téléphoniques sont très inégales à Sagaing en ce moment. Il y a quelques minutes, j'ai parlé à mon ami et la ligne téléphonique a été coupée au bout de quelques secondes. Ce que nous savons, c'est que 80% de la ville a disparu et nous nous attendons à ce que 80% des habitants de Sagaing soient morts. Le problème est que ce matin, le 31 mars, on nous a dit que les gens n'étaient pas autorisés à extraire les corps de sous les bâtiments, ni de déblayer, parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de la junte pour le faire. Le groupe armé Piu Sao Ti de la junte a été vu en train de contrôler les sauveteurs en leur demandant de fournir la preuve qu'ils avaient l'autorisation d'extraire les corps de dessous tous les tas de décombres. Seules les distributions de nourriture et d'eau sont autorisées ce matin.
Un témoignage recueilli il y a quelques instants par Abla Junaidi en Birmanie. Un deuil national d'une semaine a été décrété par les autorités au pouvoir, ainsi qu'une minute de silence demain observée dans tout le pays. Gaza, l'armée israélienne vient d'émettre de nouveaux ordres d'évacuation des quartiers de la ville de Rafah, laissant entendre une reprise des combats dans ces zones. Sur X, le porte-parole de l'armée israélienne affirme en langue arabe, l'armée israélienne revient pour combattre avec force les terroristes. Pour votre sécurité, vous devez vous rendre immédiatement aux abris. En Israël aujourd'hui, malgré un recours en justice, Benjamin Netanyahou a décidé de choisir un nouveau chef du Shin Bet, les services de renseignement liés à la sécurité intérieure. Le premier ministre israélien a choisi Eli Sharvi, un ancien commandant de la marine. Vladimir Poutine d'y rester ouvert à tout contact avec le président américain Donald Trump, c'est du moins ce qu'affirme le Kremlin. Après les dernières critiques ce week-end du locataire de la Maison Blanche à l'encontre du président russe, Donald Trump a dit sur la chaîne américaine NBC être très énervé, furieux contre Vladimir Poutine. Pour Martin Quincey, chercheur spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, le président américain est sous pression, les échéances qu'il a lui-même fixées le tendent.
Donald Trump est dans une position difficile. Il souhaite mettre un maximum de pression et sur Vladimir Poutine et sur Volodymyr Zelensky pour obtenir des concessions des deux côtés. Il pensait être celui qui pouvait trouver cet accord avec Vladimir Poutine. Il a cet engagement vis-à-vis de ses électeurs, de la population américaine, et il s'est donné un calendrier très ambitieux pour obtenir ce cessez-le-feu. Il a pu parler de Pâques comme étant une échéance pour trouver cet accord. On parle depuis plusieurs semaines d'une possible rencontre à Moscou autour de la célébration de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale le 9 mai. Dans les semaines à venir, il y a donc des échéances très proches et Donald Trump souhaite pouvoir montrer qu'il a réussi son pari et qu'il a obtenu ce cessez-le-feu avec la Russie et l'Ukraine.
Propos recueillis par Julien Chavanne. Le roi du Danemark est en France. Frédéric X vient d'entamer une visite d'État de 3 jours. Visite qui sera marquée par un renfort forcément de la coopération en matière de défense entre la France et le Danemark, et ce, en pleine turbulence autour du Groenland, territoire autonome danois, convoité par Donald Trump. Et puis enfin, ce week-end, Paris accueillait SOS Océan, un événement international qui réunissait des scientifiques et des défenseurs des océans. Objectif, préparer la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui se déroulera à Nice en juin prochain. Igor Strauss.
Le directeur général de la plateforme Océan et Climat, Gauthier Carl, tient d'abord à saluer l'ambition du président de la République.
Un véritable engagement sur les sujets internationaux qu'il faut saluer, que ce soit sur la haute mer, sur l'exploitation des fonds profonds, sur l'importance de défendre la science dans le contexte d'attaques régulières auxquelles elle fait face.
La défense de la science, 8e objectif d'un Emmanuel Macron qui tacle sans le nommer Donald Trump en adoptant une posture opposée. Mais ce qui a retenu l'attention de Gauthier Carl, c'est l'annonce par le président de la création de grandes aires marines protégées.
Mais ces grandes aires marines protégées, encore une fois, leur efficacité sera conditionnée par des moyens de gestion, des moyens financiers, des moyens de surveillance pour éviter de reproduire de fameuses aires marines protégées de papier qui ne sont pas effectivement protégées, donc qui ne permettent pas à la biodiversité de se recouvrir et donc à l'océan de se régénérer.
Emmanuel Macron, régulièrement pris à partie par les associations pour sa gestion des aires marines protégées, a répété qu'il souhaitait que 30% de l'océan soit sous protection d'ici 2030. Il a également plaidé pour un renforcement de la lutte contre la pollution plastique et pour le développement d'une pêche durable. Pas un mot, en revanche, sur la pêche au chalut pointée du doigt par les associations.
3 heures d'information en continu sur RFI dans 20 minutes. Le débat du jour sur l'avenir du RN, mais pour l'heure, accent d'Europe.